de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministre de la Défense ajoute 9 avions pour TNI. Le président de la Commission électorale générale a exprimé ses remerciements pour le soutien au premier débat des candidats à la présidentielle de 2024. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le ministère indonésien de la Défense a de nouveau augmenté la puissance du système d'armes principales des forces armées nationales indonésiennes via l'achat de 9 avions NC-212I. Au cours de la première phase, 5 avions ont été livrés et les autres sont prévus pour l'année prochaine. La remise de ces 5 avions a été effectuée par le ministre indonésien de la Défense Prabowo Subianto à la base aérienne Halim Perdana Kusuma mardi 12 décembre 2023. Prabowo a symboliquement remis les clés de l'avion du chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air indonésienne, le maréchal TNI Gustav Brugman. Dans son discours, Prabowo s'est dit fier parce que cet avion était un produit de l'industrie de défense nationale. Il espère que cet avion pourra encourager la croissance économique nationale et faire progresser l'industrie de défense nationale.
Dan kita berharap industri pertahanan kita akan terus meningkat sampai dengan memproduksi pesawat-pesawat tempur.
Et nous espérons que notre industrie de défense continuera à s'améliorer au point de produire des avions de combat de fabrication artisanale. L'industrie de défense est absolument nécessaire pour un pays qui veut souverain et indépendant. Une force aérienne forte est une condition nécessaire pour un pays moderne qui veut être indépendant et souverain. L'avion NC-212I est une variante de l'avion NC-212 entièrement fabriqué par PT Dirgantara Indonesia. Cet avion peut atterrir sur une piste de 600 mètres de long, en herbe ou en sable, et peut être utilisé pour diverses opérations. Les 5 avions renforceront Air Squadron 4, Air Wing 2, donc le siège est à la base aérienne Abdurrahman Saleh à Malang dans l'est de Java. Le président de la Commission électorale générale Hashim Ashari, dans ses remarques lors du débat inaugural des candidats à la présidentielle indonésienne de 2024 mardi soir à Jakarta, a exprimé sa gratitude pour le soutien de tous les partis qui ont soutenu la mise en œuvre de cette activité. Il espère que chaque paire de candidats pourra utiliser ce débat pour transmettre sa vision, sa mission et ses programmes qui peuvent convaincre les électeurs de faire leur choix. À cette occasion, la Commission électorale générale a exprimé ses remerciements pour le soutien de tous les partis afin que le premier débat puisse avoir lieu ce soir. Et bien sûr, nous nous excusons s'il y a des choses désagréables. Le débat inaugural des candidats à la présidence a porté mardi sur des questions de gouvernement, de droits de l'homme, l'éradication de la corruption, le renforcement de la démocratie ainsi que d'amélioration des services publics et de l'harmonie civique. Ce débat a réuni tous les couples de candidats, à savoir Anies Baswedan et Mohaimin Iskandar, Prabowo Subianto et Gibran Rakabuming Raka, ainsi que Ganjar Pranowo et Mahfud MD. Le prochain débat est le débat des candidats à la vice-présidence qui devrait avoir lieu le 22 décembre avec des discussions sur l'économie, les finances, l'investissement, les impôts, le commerce, la question de APBN, de APBD et les infrastructures. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. En commémoration de la 75e Déclaration universelle des droits de l'homme au siège de l'ONU à Genève en Suisse, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré qu'en tant que candidat élu au poste de membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'Indonésie a réaffirmé son soutien à la Palestine. Cela inclut l'augmentation des contributions de l'Office de Sécurité et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, 3 fois. En outre, cité dans une déclaration officielle reçue à Jakarta mardi, la ministre Retno Marsudi a transmis l'engagement de l'Indonésie à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Pour cette raison, selon lui, l'Indonésie continue de déployer des efforts pour que la ratification puisse être réalisée dans son intégralité. Selon lui, si la Convention a été ratifiée, cela signifie que l'Indonésie a ratifié tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a également déclaré que l'Indonésie s'engageait également à protéger et respecter les droits de personnes handicapées, notamment en renforçant le rôle de la Commission nationale sur handicap. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rencontré le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, pour discuter de la question des réfugiés rohingyas entrant sur le territoire indonésien. Lors d'une réunion qui a eu lieu à Genève en Suisse lundi, Retno Marsudi a souligné les défis auxquels l'Indonésie est actuellement confrontée avec l'afflux des réfugiés rohingyas. La ministre Retno, dans un communiqué de presse en ligne mercredi, a déclaré qu'il y avait de fortes allégations de problèmes de contrebande et de traite des êtres humains. Au cours de la conversation en tête-à-tête qui s'est déroulée très ouvertement, Retno Marsudi a déclaré que Grandi comprenait vraiment les défis auxquels l'Indonésie était confrontée. Grandi a promis que le HCR ferait de son mieux pour aider à résoudre ce problème, notamment en fournissant une assistance pour soutenir la vie de ces réfugiés. Le nombre de réfugiés rohingyas entrant sur le territoire indonésien est en augmentation. Le HCR indique que plus de 1200 Rohingyas ont atterri en Indonésie depuis novembre 2023. Donc, au moins 300 sont arrivés à Aceh la semaine dernière. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative se concentre sur le développement de destinations touristiques basées sur le tourisme vert en 2024. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Salahuddin Uno, dans la ville de Bandung, Jawa West, a déclaré mardi que ce tourisme environnemental créer des opportunités d'emploi et avoir un impact social sur les communautés de chaque région. En outre, il a déclaré qu'actuellement l'Indonésie était confrontée à une triple situation de crise planétaire ou à la menace du changement climatique, de l'augmentation de la pollution et de la perte de la biodiversité. Par conséquent, son parti continue d'encourager les districts ou villes à développer un tourisme vert avec une bonne planification spatiale qui préserve la durabilité environnementale. En outre, il a déclaré qu'avec ses diverses ressources naturelles potentielles et sa diversité culturelle, l'Indonésie dispose d'un fort potentiel pour développer le tourisme vert utilisant les énergies renouvelables. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'accueil diplomatique, intitulée Le consulat général d'Indonésie à Guangzhou organise le 3e festival des arts culturels d'Angklung. Le consulat général de la République d'Indonésie à Guangzhou, en collaboration avec le parc des oiseaux Nansa et avec le soutien du Bureau de tourisme, de la culture, de la télévision et de la radio du district de Nansa, a organisé dimanche le 3e festival des arts culturels d'Angklung au parc des oiseaux Nansa Guangzhou, la Chine. Ce festival a réuni des responsables de Nansa, des universitaires, des artistes, des communautés locales et des étudiants indonésiens de diverses universités du sud de la Chine. Dans son discours au nom du consul général de la République d'Indonésie, le consul pour l'information et les affaires sociales, Christine Agustina Siregar, a déclaré que le festival d'Angklung présente la beauté du bambou avec faisant partie du patrimoine culturel indonésien. L'Angklung a été déclaré chef d'œuvre du patrimoine culturel oral et immatériel humain par l'UNESCO en 2010. le jeu de l'enclos contient des valeurs, à savoir la coopération, la coordination, le respect mutuel et l'harmonie sociale. Enclos est aussi un moyen de renforcer les relations entre les individus ou bien relations de personne à personne. Le vice-président du comité directeur de l'Assemblée populaire du district de Nansa a déclaré son soutien à l'augmentation de la coopération culturelle et artistique avec les pays situés autour de la ceinture et la route, en donnant la priorité à l'esprit de compréhension mutuelle et d'apprentissage mutuel. Le troisième festival des arts culturels d'Anglong a été rempli de performances d'étudiants de l'Université des arts de Guangxi. Ils ont joué plusieurs chansons traditionnelles indonésiennes telles que Warung Pocok, Peyem Bandung, Yamko Rambi Yamko et Ayam Den Lape. Ils ont également exécuté des danses traditionnelles balinaises et de Sumatra occidentale. Il y a eu également des représentations Anglong de Ayo Mama et Bengawan Solo par d'anciens immigrants chinois de Haiku, Hainan, donc la plupart étaient des personnes âgées. La collaboration entre le Consulat général d'Indonésie à Guangzhou et le Bureau du tourisme, de la culture, de la télévision et de la radio du district de Nansa et le parc ornithologique de Nansa pour promouvoir la culture indonésienne est entré dans sa troisième année. Le parc des oiseaux Nansa est le seul endroit en Chine qui possède un pavillon indonésien, un bâtiment en bambou, donc les matériaux et les artisans sont tous importés de l'Indonésie. L'Université des arts de Guangxi, dans le cadre de cette activité, supervise le Musée national de la musique ethnique de Guangxi, le premier musée dédié à la musique de Guangxi et le premier musée de la musique ethnique en Chine. Cette institution organise activement diverses conférences qui non seulement promeuvent et préservent les traditions culturelles musicales ethniques de Guangxi, mais aussi de l'Asie du Sud-Est, y compris la musique indonésienne, telle que Angklung. Chers amis, c'était la rubrique L'accueil diplomatique de la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 14 décembre. On commence par le 14 décembre 1911, Roald Amundsen, la première personne à arriver au pôle sud. Le 14 décembre 1911, Roald Amundsen, un Norvégien, est devenu le premier explorateur à atteindre le pôle sud. Amundsen était l'une des figures importantes dans le domaine de l'exploration polaire. Lorsqu'il a atteint le pôle sud, lui et son équipe réussit à vaincre l'équipe d'expédition britannique dirigée par le capitaine Robert Falcon Scott. La suite, le 14 décembre, la journée de l'histoire nationale. La journée de l'histoire nationale a commencé avec le séminaire d'histoire nationale organisé à Yogyakarta du 14 au 18 décembre 1957. Le séminaire a été organisé par l'Université Gadjah Mada et l'Université d'Indonésie. Le but du séminaire était de recueillir diverses opinions et suggestions à considérer dans compiler l'histoire nationale de l'Indonésie. Parce que l'histoire doit être scientifique et responsable. Avec la Journée nationale de l'histoire, on espère qu'elle donnera naissance à diverses nouvelles réflexions pour améliorer l'enseignement de l'histoire en Indonésie. Le 14 décembre 1915, l'accord de Dayton a été signé. Après la négociation, L'accord d'Dayton a été conclu et signé le 14 décembre 1995 à Paris, France. L'accord de Dayton était un accord visant à mettre fin à la guerre entre les citoyens de souche yougoslave. Les personnes qui ont signé l'accord étaient le président serbe Slobodan Milošević, le président croate Franjo Tuđman, le président bosniaque Alija Izetbegović et le négociateur en chef américain Richard Holbrooke et le général Wesley Clark. Cependant, la guerre yougoslave ne s'est réellement arrêtée que le 12 novembre 2001. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tabi. Tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada biasa. Tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jatuh cinta.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Voici mon Indonésie dont le titre est « Le pavillon indonésien de la COP28 présente des discussions sur les changements climatiques ainsi que sur les actions de l'Indonésie pour lutter contre le changement climatique mondial. » Le pavillon indonésien, qui était un moyen de diplomatie douce lors de la conférence COP28 sur les changements climatiques de la conférence cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou abrégé en TTNUTT, a été officiellement fermé lundi par l'ambassadeur de la République d'Indonésie aux Émirats Arabes Unis, Husin Bagis. Au total, 77 séances de discussion en panel réunissant des intervenants de divers horizons ont montré qu'un nombre croissant d'acteurs autres que le gouvernement sont impliqués dans les actions d'atténuation du changement climatique. L'ambassadeur Husin a déclaré que le pavillon indonésien montrait que des politiques et des actions visant à faire face au changement climatique étaient mises en œuvre, preuve de l'engagement de l'Indonésie dans les négociations mondiales et des actions prises par divers partis dans ce domaine. En outre, le pavillon indonésien soutient les négociations de l'Indonésie à la table de négociation de la COP28 de la TTNUTT. Le pavillon indonésien a également exprimé son action, sa stratégie et son innovation au monde international en tant que l'un des leaders dans la prévention d'une hausse des températures mondiales au-dessus de 1,5 degré Celsius. Il y avait une différence dans le pavillon indonésien lors des deux précédentes conférences sur le changement climatique tenues à Glasgow, en Angleterre, et à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Dans les deux pays précédents, le pavillon indonésien a souligné le rôle important du secteur forestier et autres utilisations des terres dans la réalisation des objectifs de réduction des émissions. En organisant la COP28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, le pavillon indonésien promeut l'action et l'engagement en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'énergie, y compris les partenariats pour une transition énergétique juste, le financement mixte, l'utilisation d'énergies nouvelles et renouvelables, et les partenariats communautaires et implication des générations. Pendant ce temps, le vice-ministre de l'Environnement et des Forêts, Alu Dohong, a déclaré que la démonstration de la richesse culturelle allant des danses et des présentations culinaires de diverses régions avait contribué à renforcer la mission de diplomatie douce menée par le pavillon indonésien à travers les séances de discussion organisées. Pendant ce temps, le responsable du pavillon indonésien de la COP28, Agus Justianto, a rapporté que dans le programme de discussion, un total de 379 intervenants étaient présents lors des 77 séances de discussion tenues au pavillon indonésien. Les intervenants sont des acteurs de l'action climatique allant du gouvernement central, des gouvernements régionaux, des universitaires, de l'organisation non gouvernementale, des communautés jusqu'à la jeune génération. Selon Agus, les séances de discussion organisées ont été les plus importantes par rapport à la tenue du pavillon indonésien à la COP26 de Glasgow et à la COP27 de Sharm el-Sheikh. Il a en outre déclaré que les thèmes de discussion soulevés au pavillon indonésien comprenaient diverses questions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, depuis l'amont en aval, les paysages marins, les individus et les groupes, y compris les acteurs économiques, le genre et la jeune génération. C'est tout mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
tetap bersama. Pasti takkan ada penyesalan yang amat terlalu dalam. Seandainya saja waktu bisa ku putar kembali, jelas ku kembali menuju hatimu. Karena hanya bersamamu aku merasakan benar dicintai. Hingga detik ini siapapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama, janji untuk saling setia atas nama cita-cita. Jarak memisahkan kita, semua berubah tanpamu. Sulit rasanya untukku, telah ku coba merelakan dan mulai melupakanmu. Tetap saja ku masih selalu merindu. Apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, non seulement à la surface, la beauté naturelle de l'Indonésie peut également être vue dans le ventre de la terre, c'est-à-dire dans les grottes. En Indonésie, il existe de nombreuses grottes formées naturellement et contenant même beaucoup d'histoires. Le tourisme spéléologique peut être une alternative intéressante pour les vacances. Pour vous qui aimez le tourisme spéléologique, nous recommandons plusieurs grottes intéressantes en Indonésie que vous devez visiter. Le premier tourisme spéléologique se trouve à Gunung Kidul, Yogyakarta, à savoir la grotte de Jomblang. L'attraction principale de cette grotte est la lumière du ciel, à savoir le rayon de soleil qui pénètre dans la grotte par un grand trou de 90 mètres de haut. Pour regarder directement cette beauté, il faut descendre jusqu'à l'embouchure de la grotte d'une hauteur de 15 à 20 mètres à l'aide d'une corde, puis suivre la grotte jusqu'au point lumière du ciel. auditeurs, contrairement au tourisme spéléologique en général, la grotte de Pankap propose un groupe de grottes rapprochées. Cette visite des grottes s'étend de la région de Maros à Pankap, précisément dans la région karstique Sulawesi du Sud. La superficie totale est d'environ 43 hectares, composée de 268 grottes. 50 de ces grottes sont des grottes préhistoriques, parce que des traces d'anciens aliments humains et de peintures anciennes ont été trouvées. Chers auditeurs, la Papouasie propose également un tourisme spéléologique qui mérite d'être exploré dans la grotte locale à la vallée de Baliem à Jayawijaya. Cette grotte est appelée une grotte sans fin car les archéologues n'ont atteint la profondeur de la grotte que jusqu'à 3 km. Il est donc possible qu'elle soit encore plus profonde. À l'intérieur de la grotte, il y a plusieurs murs creux qui, lorsqu'on les tape, émettent des sons tout à fait uniques. Situé dans une zone de forêt de pins, l'air de la grotte de Lokale est connu pour être très frais et magnifique.
Aku kerahkan yakin dan percaya, walau.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter ABBI 2023. Le prix du fièrement fabriqué en Indonésie, ou ABBI 2023, est à nouveau décerné. ABBI est un événement d'appréciation pour les acteurs de micro, petites et moyennes entreprises qui sont capables de grandir et de continuer à développer leur entreprise en utilisant la technologie numérique. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, M. Sandiaga Uno, a estimé que le prix du fièrement fabriqué en Indonésie 2023 est très stratégique, parce que lors de son lancement le 14 mai 2020, on espérait que davantage de micro, petites et moyennes entreprises intégreraient la plateforme de marché, et à la fin de 2021, il existe déjà 20 millions de micro, petites et moyennes entreprises. L'objectif est d'avoir 30 millions de MPME en 2024, et cette année est la troisième année où est décerné le prix du fièrement fabriqué en Indonésie, qui est l'un des dérivés du mouvement national fièrement fabriqué en Indonésie, ou GERNAS BBI. Madame Liz Zeni Mary, sous-adjointe par intérim au développement de l'économie créative du ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, a déclaré que ABBI 2023 se tiendra le 15 décembre 2023. Et pour l'instant, les hommes d'affaires qui sont devenus finalistes ont besoin de soutien du vote lors de cet événement. En 2023, le ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement a mis en œuvre le mouvement national du fièrement fabriqué en Indonésie et fier de voyager en Indonésie, ou BBWI, dans 10 provinces activées. Parmi ces 10 provinces, les meilleurs nominés ont été sélectionnés et un vote ultérieur aura lieu pour les choisir. La date limitée est le 13 décembre 2023. Il y a 7 aspects d'évaluation pour remporter l'événement de ABBI 2023. Entre autres, l'augmentation des transactions sur la plateforme, la sagesse locale, certification de base, les compétences numériques, les rapports comptables complets, les impacts et les avantages pour la zone environnante, ainsi que le potentiel du marché national et mondial. La mise en œuvre du fièrement fabriqué en Indonésie 2023 est également soutenue par la Banque d'Indonésie, la BRI et Pegadaian. Le responsable du département de financement des micro et petites entreprises, PT Pegadaian, Sri Sapti Anggreni, a déclaré que Pegadaian soutient la mise en œuvre de ABBI 2023 parce qu'elle souhaite également jouer un rôle plus important dans le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Pegadaian fournit un soutien aux MPME, y compris le financement et l'assistance pour les micro, petites et moyennes entreprises. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
kasihku. Cintaku ini untuk kamu, takkan pernah ada yang lain yang bisa menggantikanmu. Kulakukan semua untukmu, hanya untukmu. Sebagai tanda cinta sejatiku untuk dirimu, ku cinta kamu apa adanya. Ku sayang kamu apa adanya. Tiada yang lain, hanya dirimu. Yakinkan diriku hanya untukmu. Teruslah menyayangiku, cintai diriku selalu, kasihku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Irma ketulusan cintamu abadi selamanya.
C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie et de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical et cette fois nous vous présentons une chanson de Padi. Padi est un groupe de musique pop rock indonésien dont les membres sont Ari Trisosianto, guitariste, Andi Fadli Arifuddin, chanteur, Surendro Prasetyo, Uyoyo, batterie, Rindra Risianto Nur, bassiste, et Satrio Yudi Wahono, Upiu, guitariste. Padi a fait ses débuts dans le monde de la musique indonésienne avec le single intitulé Sobat qui a été inclus dans leur premier album studio intitulé La Indonesia en 1999. Les paroles de la chanson Sobat ont été écrites par Piu, le guitariste du groupe Padi. Dans une interview sur YouTube, Piu a déclaré que la chanson Sobat avait été créée sur la base de l'évision de son cœur. Cette chanson raconte l'histoire de quelqu'un qui tombe amoureux de la petite amie de son meilleur ami. Les paroles de cette chanson sont pleines de regrets et d'excuses. Bon, chers auditeurs, voici une chanson intitulée Sobat, chantée par Padi. Bonne écoute!
So
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voi Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.